Bienvenue à toutes et tous, bonjour, je suis ravi d'ouvrir cet événement commun entre la FMSH en tant que président et AOC, ou devrais-je dire avec AOC et la FMSH. Il n'y a pas de plus beau thème pour nous que éditer les sciences sociales. Il faut des auteurs et des autrices. On a la chance qu'ils soient là aujourd'hui et c'est vraiment un grand mot de remerciement à eux de participer à ce type d'événement. Mais il faut aussi des éditeurs et des éditrices. Il faut aussi des distributeurs et des distributrices. Il faut aussi des libraires. Il faut des camionneurs et des camionneuses. Il faut des postiers et des postières, des livreurs et des livreuses. Et parfois, on les oublie. Donc, dans la mesure où la Fondation Maison des Sciences de l'Homme est aussi un distributeur d'ouvrages, pour qu'ils arrivent dans nos mains, il faut une énergie collective très importante, dont on oublie parfois la valeur pour finalement lire un livre, en discuter, en débattre. Voilà, bienvenue.
Merci, ça marche. Merci Antonin Cohen. Je suis très heureux qu'on puisse, pour la deuxième fois, faire cette rencontre, ou éditer les sciences sociales dans un format auquel on est habitué à AOC, puisque depuis plus de 5 ans maintenant, on a des réunions de ce type qui sont des réunions plutôt professionnelles. Celles-ci sont ouvertes au public, avec une idée simple, mais qui nous semble judicieuse. Encore plus aujourd'hui, pour des raisons que je ne vais pas développer longtemps, mais que je vais pointer, soutenir l'édition publique en sciences humaines et sociales. Et donc nous attacher, dans le cadre de cette rencontre, à l'édition publique, c'est-à-dire aux maisons d'édition. Alors ce qu'on entend par édition publique, ce sont des maisons d'édition qui sont soutenues, financées par de l'argent public, donc qui ne fonctionnent pas tout à fait avec les mêmes règles que les éditeurs que vous connaissez privés. Je dis ça parce qu'on vit un moment de transformation lente, mais très nette, s'agissant de l'édition en France, à propos des sciences humaines et sociales, avec la désertion du domaine progressive de plus en plus d'éditeurs généralistes. Vous savez, on vit en France sur ce modèle de la librairie de la littérature générale. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Aux États-Unis, les choses sont séparées depuis très longtemps. S'agissant des sciences humaines et sociales, elles sont publiées par des maisons académiques. Ici, on a encore cette tradition qui fait qu'une maison comme Gallimard ou Le Seuil ou La Découverte, etc., publie ses ouvrages. Mais il y en a de plus en plus qui se retirent en fait à la faveur des mouvements de concentration, d'industrialisation poussée de ce domaine. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les maisons d'édition publiques, sans doute l'ont-elles analysé, ont saisi la balle au bond et se transforment, se professionnalisent, se modernisent, parviennent à éditer des livres audacieux, de qualité, à des prix souvent inférieurs à ceux des maisons traditionnelles. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle et que nous, à AOC, quotidien d'idées, on a envie de soutenir. On a envie de soutenir. C'est un vrai effort. C'est-à-dire que, parce qu'une des choses qui reste, à mon sens, à faire, et je vous parle là du point de vue d'un journaliste spécialisé sur le domaine, pour ces maisons, c'est de travailler mieux, justement, avec nous, avec les intermédiaires, avec les journalistes, être capable de donner les informations beaucoup plus en amont, de le faire de façon simple. Il faut beaucoup d'énergie, à notre place pour aller chercher, les livres. Parce qu'ils sont là, les livres, ils sont très beaux, ils sont variés, Mais je peux vous assurer qu'il faut le vouloir pour les trouver parfois. Et donc, ce que je dis là vaut aussi pour les libraires. Et je crois qu'il y a. Voilà. Donc, nous, on est prêts à ça, on y passe du temps. Et ce soir encore, on en apporte la preuve. On veut essayer de participer de cet effort collectif. Donc, selon le principe que je disais tout à l'heure, on va donner la parole successivement à des autrices et des auteurs pour présenter 7 livres, en fait. Et comme toujours, il n'y a pas de thématique, comme toujours dans le cadre de nos rencontres. Donc, vous allez voir, on passe du coq à l'âne, c'est le principe. Du coq à l'âne en matière de sujet, d'objet, mais aussi du coq à l'âne d'un point de vue disciplinaire. Parmi ces maisons, certaines sont distribuées par la FMSH, hein, ce dont parlait Antonin Cohen. Il faut saluer ici l'initiative qui va dans ce sens d'une ouverture au public du comptoir, qui est au premier étage. Comptoir où vous pourrez trouver en vente, d'ailleurs, les livres dont on va parler aujourd'hui, parce que c'est tous des livres qui sont déjà publiés. Donc, ils sont disponibles là-haut. Et puis, on a ouvert aussi à 3 autres maisons qui ont d'autres systèmes de distribution-diffusion, mais qui relèvent également de l'édition publique. Voilà, on va, sans plus attendre, commencer. Je vais demander à Charlotte Recoquillon de me rejoindre. Elle est géographe et l'autrice d'un livre titré « Harlem, une histoire de la gentrification » qui paraît aux éditions de la MSH, la Maison des sciences de l'homme, dans la collection Amérique. Et c'est un livre donc sur ce quartier de New York, de Manhattan, même plus précisément, et qui est une sorte de laboratoire historique, au fond, d'un phénomène social qu'on a vu s'étendre à de très nombreux quartiers depuis. Mais je dirais que de ce point de vue-là, Harlem avait une sorte de longueur d'avance. J'imagine que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous vous êtes intéressé à ce territoire.
Bonsoir, merci de m'accueillir, de me donner l'opportunité de présenter ce travail. Travailler sur la gentrification en tant que géographe, c'est apparu effectivement comme une évidence dès les premiers jours sur le terrain. Moi, j'étais partie étudiante, travailler sur des questions de ségrégation urbaine traditionnelle. J'étais intéressée par les questions raciales et d'organisation spatiale de la population. Et puis, en fait, tout le monde avait que ce mot à la bouche, la gentrification, et les habitants étaient en train de s'organiser pour y résister. Et ensuite, je ne sais pas si on peut dire que Harlem a été un laboratoire. En tout cas, les villes américaines, c'est sûr, ont très tôt vu émerger ces processus de gentrification. Mais dans mon travail, ma thèse, hein, mon propos, c'était vraiment de montrer que la gentrification n'avait pas été un processus spontané à l'initiative des acteurs privés, etc., mais au contraire, était le résultat de politiques publiques intentionnelles, volontaristes et assez, si ce n'est agressive, en tout cas coordonnée et intentionnelle. Donc ça a été vraiment le gros de mon travail, de montrer que la gentrification et donc le déplacement de la population et finalement une certaine vision de la ville et du droit à la ville et du droit à la population d'y habiter était le résultat de politiques municipales successives par des administrations successives, quelle que soit d'ailleurs la couleur politique.
Vous êtes géographe, vous disiez, mais le livre, le sous-titre, c'est une histoire de la gentrification. Ce n'était pas une évidence de travailler sur cette profondeur historique, sur cette dimension historique. Vous auriez pu choisir de travailler sur la situation contemporaine, par exemple.
Alors, je parle de la situation contemporaine, évidemment. Je l'explique à travers aussi cet empilement, ce palimpseste de politique publique, justement. Et on est obligé de revenir pour comprendre l'histoire de Harlem. Et d'ailleurs, la perte du quartier, aujourd'hui la transformation, le basculement de ce quartier noir qui est reconquis ne se comprend que parce que à la base Harlem était construit pour devenir un quartier bourgeois blanc et une bulle spéculative a quelque part accidentellement transformé ce quartier en ghetto noir au début du XXe siècle, au moment où il y avait une grande migration de la population noire née post-esclavage dans les États du Sud, qui a migré dans les villes du Nord où il y avait des emplois. Et Harlem est devenu un des seuls quartiers qui accueillait la population noire à une époque où la ségrégation était la norme. Donc, pour comprendre cette reconquête, il fallait revenir sur la genèse de ce quartier, sur comment il était devenu un ghetto, comment il était devenu aussi un symbole, une Mecque noire, une vraiment
capitale culturelle.
Capitale culturelle, bien au-delà des États-Unis d'ailleurs, et dans le monde noir, dans le monde entier en fait. Donc je reviens effectivement sur tous ces épisodes-là et pour expliquer aussi pourquoi aujourd'hui les les nouveaux commerces, les entreprises, le tourisme, etc., capitalisent sur ce patrimoine et l'exploitent artificiellement, finalement, pour parler de Black Lives Matter, de Malcolm X, de l'histoire culturelle et artistique.
De Blaxploitation, de l'Apollo Theater.
Exactement, tout en excluant les gens qui ont fait cette gloire-là et ce patrimoine culturel-là.
Merci beaucoup. Merci à Coquillon. Vous. Donc ce livre a paru là récemment.
En janvier,
aux éditions de la MSH. Histoire, Harlem, une histoire de la gentrification. Merci.
Merci.
Je vais demander à Sylvain Aquatias de me rejoindre. Sylvain Aquatias, donc qui a coécrit un livre, enfin principalement écrit puisqu'il est signé avec la participation d'Alain François, sur sociologue, donc sur la bande dessinée, sur l'univers de la bande dessinée. Je sais qu'il vient de Belgique, alors peut-être est-il un peu en retard. On va passer au livre suivant sur la liste, sur le programme qu'on avait prévu. Stéphanie Blot-Macagnan et Karine Deharbe sont-elles là? Oui. Quand je vous ai dit Coq à l'âne, voilà, on aurait dû passer par la case BD, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Là, on va parler du pont, ou des ponts au pluriel, mais le titre du livre, c'est Le pont, de l'ouvrage d'art à l'objet juridique. Vous avez co-dirigé cet ouvrage, Stéphanie Blot-Macagnan et Karine Deharbe. J'ai pas réussi à trouver quelles étaient vos appartenances disciplinaires en fait à l'une et l'autre, parce que c'est pas indiqué dans le livre. Alors je vais le découvrir avec tout le monde, mais en tous les cas, c'est un livre qui réunit des approches disciplinaires très variées pour penser cet objet qui se trouve dans l'actualité. On peut penser à Baltimore, évidemment, ces derniers jours, mais il est question de gêne dans votre livre. Mais les ponts ne font pas que s'écrouler, on les construit ou on fait des romans à propos d'eux. Je pense au très beau livre de Maëlys de Kerangal, par exemple. Mais je vous laisse la parole pour nous présenter ce livre.
Merci beaucoup. Donc bonsoir à tous et à toutes. Et merci beaucoup pour votre invitation à AOC. Merci aussi à la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme pour leur accueil. Donc effectivement, nous sommes historiennes du droit toutes les deux. C'est notre rattachement. L'objectif, en fait, c'était de travailler donc sur le pont. Donc le titre, c'est « De l'ouvrage d'art à l'objet juridique ». Parce que comme très souvent, nous étions aperçus qu'il y avait un vide historiographique sur un sujet qui nous passionne comme beaucoup de membres, enfin comme toute personne qui se promène dans la nature et qui peuvent voir des ponts, ou qui se promènent et qui doivent passer sur le viaduc de Millau, qui peuvent être fascinés par cette architecture. Et le sujet nous intéressait beaucoup. Et nous sommes aperçus donc qu'il y avait beaucoup d'ouvrages, de très beaux ouvrages qui avaient été rédigés soit par des architectes ou encore par des conservateurs du patrimoine, mais jamais sous l'angle qui était le nôtre à l'origine, qui est l'histoire du droit et des institutions. Donc nous avons voulu commencer ce travail. Néanmoins, nous ne voulions pas rester que dans notre champ de l'histoire du droit. Immédiatement, on a voulu, comme la thématique s'y porte, c'est celui du pont, donc s'orienter vers d'autres personnes, d'autres disciplines. Donc nous avons ouvert ce champ à tous nos collègues, juristes, parce que bien souvent, c'est une question qui est éminemment juridique, mais elle n'est pas abordée par les juristes. Donc on leur a proposé. Nous avons commencé avec tous les collègues de notre propre université, du laboratoire, de la faculté de droit, pour nous orienter vers nos proches, amorcer un dialogue. Mais nous ne voulions pas non plus rester que vers le domaine universitaire. On avait besoin, parce que ce n'est pas notre domaine, de discuter aussi avec des techniciens, donc avec des architectes, des ingénieurs, des conservateurs du patrimoine. Donc ça c'est l'origine. Et ensuite, la suite, c'est un colloque qui a réuni 21 personnes. Alors tout à l'heure, on évoquait effectivement les livreurs. C'est 21 personnes, mais on a aussi une pensée pour les 21 personnes qui ont écrit. Mais nous avons aussi une pensée pour toutes celles qui ont collaboré, c'est-à-dire ceux qui, dès le départ, ont cru au projet, qui l'ont financé, jusqu'à la fin, c'est-à-dire notre éditeur, qui a vraiment été présente.
Les presses universitaires de Limoges.
Presse universitaire de Limoges. Et notamment Jacqueline Ouarraud-Dodino, qui est également une historienne du droit, mais qui pendant très longtemps a dirigé les cahiers internationaux d'anthropologie juridique. Et c'est elle qui nous a vraiment épaulés.
Tu
tu as ajouté. Vous
l'avez bien dit les choses.
Voilà.
Vous n'avez rien à
ajouter.
À ajouter. Mais pourquoi était-ce, selon vous, juridiquement un impensé, en quelque sorte, le pont, et pourquoi est-ce un objet juridique particulièrement intéressant?
Tu veux répondre? Parce qu'en fait, du point de vue juridique, le pont concerne en fait de multiples matières des domaines du droit, parce que le droit, ce n'est pas seulement le droit. Le droit, il y a plusieurs branches, hein, le droit public, le droit privé, le droit de l'environnement, etc. Et il nous semblait vraiment important d'aborder tous ces aspects. Par exemple, en droit public, pour les questions de sécurité, la chaîne de responsabilité des juristes, lorsque, par exemple, vous le disiez tout à l'heure, un pont s'effondre. En matière de droit de l'environnement, évidemment, quand un pont est construit, tout un ensemble de questions écologiques, environnementales se posent, et à ce moment-là, il faut pouvoir les résoudre. Donc ça nous semblait important. Mais du point de vue de... Comme nous voulions vraiment ouvrir, c'est pour ça que nous avons fait appel, comme l'a dit Stéphanie, à d'autres collègues universitaires, des géographes notamment, qui nous ont rappelé que le pont était présent partout dans l'espace humain. Le pont est vraiment un élément reflet de la construction sociétale et de l'humanité en réalité, exactement. Et il y avait aussi l'appel à des historiens purs, parce qu'il ne faut pas confondre les historiens et les historiens du droit, ce n'est pas la même chose, hein, ce sont deux choses différentes. Donc nous voulions faire appel également donc, à des historiens, mais également à l'art, l'histoire de l'art, puisque le pont est très souvent représenté de manière picturale, et ça en dit beaucoup sur nos sociétés.
Et que c'est un ouvrage d'art.
Ah, absolument.
Par ailleurs, il y a une dimension de droit comparé aussi, du coup, est-ce que...
Alors, il n'y a pas vraiment. Il y a eu une étude dans cet ouvrage justement d'un juriste qui est Jean-Sylvestre Berger, pardon, qui a travaillé justement sur l'idée de pont en tant que métaphore dans les circulations internationales. Savoir est-ce qu'on emploie le mot pont, l'image du pont, pour qualifier. Examiner les différents systèmes juridiques. Et effectivement, le pont, alors il a effectivement dit que le pont était peu utilisé en tant que métaphore, mais en réalité, le pont est bien là parce que quand on change de système juridique, il faut trouver des moyens de passer d'un système à l'autre et ce n'est pas toujours évident.
Merci beaucoup. Toutes les deux, donc le pont de l'ouvrage d'art à l'objet juridique, c'est aux presses universitaires de Limoges et le livre a paru il y a quelques semaines. Voilà. Merci. J'ai demandé à Mehdi Labzaé de me rejoindre. Mehdi Labzaé est politiste, il est chercheur au CNRS à Nanterre, et il a publié aux éditions de l'EHESS récemment « Partisans, fonctionnaires et paysans, une enquête sur l'État-parti en Éthiopie ». Alors c'est un livre de sociologie politique dont on pourrait se dire que en fait, l'objet est assez étroit puisqu'il s'intéresse à une partie de l'administration de ce pays. Mais en fait, c'est au-delà de ça une contribution à la sociologie de l'État. En fait, c'est bien ça l'enjeu, Mehdi Labzaé.
Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. J'espère que c'est clair à la lecture, effectivement, qu'il ne s'agit pas simplement de parler de l'Éthiopie, mais il s'agit aussi de parler plus largement de catégories qu'on emploie beaucoup dans l'analyse spontanée de régimes politiques. Et notamment en sciences politiques, on va classifier des démocraties, des autoritarismes et des totalitarismes. Alors les démocraties, en général, on voit à peu près ce que c'est. Démocratie post-industrielle occidentale. Les totalitarismes, on voit aussi à peu près, Troisième Reich, URSS, Corée du Nord, Érythrée. Bon, autoritarisme par contre, du Chili de Pinochet en passant par le Cuba de Castro jusqu'à maintenant, on parle parfois de la Hongrie d'Orban comme un autoritarisme. Une fois qu'on a dit autoritarisme, on n'a pas dit grand-chose. Donc l'idée derrière l'enquête, derrière ce livre, c'était d'aller voir concrètement comment ça se passe dans les administrations d'un tel État, en considérant que le pouvoir d'État, c'était aussi pas seulement le régime ou la Constitution, mais aussi les fonctionnaires qui l'incarnent concrètement au quotidien. Et donc c'est le fruit de un peu plus de 3 ans d'enquête dans l'administration foncière en Éthiopie.
C'est ça, mais pourquoi vous avez fait le choix de cette administration-là, donc qui s'occupe de la terre, de...
C'est vraiment une question d'accès. C'est-à-dire qu'au début, j'avais pour intention d'enquêter sur le plus petit échelon d'administration. Pour y avoir accès en tant qu'étranger, il fallait que je passe par un programme de développement. Et le programme de développement que j'ai trouvé, c'était un programme de formalisation des droits fonciers, qui est quelque chose qui est très à la mode dans l'industrie du développement, avec cette idée qu'en donnant un titre foncier aux petits paysans, ils seront... Enfin, on va les sortir de la pauvreté comme ça, c'est-à-dire ils pourront hypothéquer, ils pourront avoir accès au crédit, tout ça. Et donc le programme qui a accepté de m'accueillir sous un statut assez lâche au départ était un programme de formalisation des droits fonciers.
Au fond, peu importe, parce que c'était un poste d'observation des pratiques de l'administration et donc, d'une certaine manière, de l'État. Vous l'avez vu d'un point de vue, mais finalement, l'étude aurait peut-être été un peu différente, mais pas fondamentalement différente si vous aviez accédé à une autre administration.
Assurément. L'avantage de l'administration foncière, c'est que c'est dans une société rurale comme l'Éthiopie, à encore entre 75 et 80 % de paysans. Bien, l'administration foncière, c'est absolument fondamental. C'est là où se négocie vraiment. Enfin, le foncier, c'est la base de la subsistance pour les paysans. À partir de là, c'est là où se négocie beaucoup du pouvoir d'État, puisque ces fonctionnaires sont en mesure d'empêcher des paysans d'avoir accès aux terres.
Et donc on voit bien, c'est une sociologie politique telle qu'on la pratique aujourd'hui, qui est assez loin du jeu des sept familles ou des trois familles, en l'occurrence, qui s'amusent à catégoriser les États en démocratie, autoritarisme et totalitarisme, dont vous parliez tout à l'heure, mais qui s'intéresse plutôt à des mécanismes sociaux, à des modes d'exercice du pouvoir à travers des interactions sociales que vous observez. J'imagine qu'il y a beaucoup d'ethnographie dans votre livre, d'entretien.
Il y a beaucoup d'ethnographie et des entretiens informels, étonnamment peu d'entretiens informels. La sortie d'un dictaphone, par exemple, est quelque chose de pas très pensable sur les terrains sur lesquels j'ai travaillé, parce que le dictaphone, c'est un instrument de journaliste ou d'espion, deux figures desquelles je tenais absolument à bien me distancier. De toute façon, je n'aurais pas eu accès si on me prenait vraiment pour un journaliste ou un espion. Donc c'est vraiment beaucoup d'ethnographie. Ce qui était assez marquant, c'est que ma prise de notes était normalisée. J'étais l'étudiant de l'équipe. C'est l'étranger qui prend des notes. C'est normal. Il est là pour ça. Laissez-le prendre ses notes. Donc de ce point de vue-là, c'était assez, finalement assez ouvert pour un État dit autoritaire. Je ne suis pas complètement persuadé qu'une préfecture française laisserait à ce point-là un étranger prendre des notes, suivre les fonctionnaires du cadastre sur leur relevé. J'en sais rien, mais à mon avis, il y aurait quand même quelques barrières.
Une dernière question. Vous avez eu des formes de restitution de ce travail auprès de certains des acteurs sociaux que vous avez étudiés ou comment ça se passe? Ou est-ce que c'est un travail qui est avant tout destiné à des pairs, non seulement en France, mais j'imagine dans une dimension plus internationale, des gens qui travaillent aussi sur ces terres géographiques, mais pas seulement?
Alors il y a des restitutions, mais qui sont jusqu'à présent informelles pour la raison principale. Entre-temps, entre la fin de mon terrain et maintenant, il y a une guerre qui a commencé en Éthiopie, qui n'épargne pas les régions dans lesquelles j'ai travaillé, qui sont deux régions à la frontière du Soudan. Donc il y a plusieurs...
Difficile d'accès désormais.
C'est d'une part assez difficile d'accès, et surtout d'autre part, la publication ou le partage de certains éléments qu'on trouve dans le livre peuvent être utilisés par le régime actuel pour stigmatiser une partie définie ethniquement de la population, ce que je ne souhaiterais pas. Voilà. Malheureusement.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Mehdi Labzaï. Partisans, fonctionnaires et paysans, le livre paraît une enquête sur l'État parti avec un trait d'union. En Éthiopie, le livre paraît aux éditions de l'EHESS dans la collection En temps et lieu. Je ne sais pas si, entre-temps... Sylvain Akwatias est arrivé ou pas? Non, il viendra pas. Bon, ok. On va passer au livre suivant. On va rester du côté de la sociologie, mais pas politique cette fois, la sociologie de la culture avec vous, Muriel Mille. Vous êtes sociologue et vous avez publié récemment aux presses universitaires de Vincennes un livre fruit d'une enquête également, d'une enquête de terrain, d'observation, elle aussi appuyée sur de l'ethnographie et des entretiens, sur un objet totalement différent. Il est écrit sur la couverture du livre une série télévisée. Vous parlez aussi de feuilleton, puisque c'est une série, mais pas au sens où on l'entend pour les séries américaines ou françaises d'ailleurs aujourd'hui, mais c'est Plus belle la vie, donc une série diffusée à un rythme différent, fabriquée en France. Et ce qui vous a intéressé, c'est d'observer la manière dont se fabriquait un objet télévisuel comme celui-là, à toutes les étapes, au fond, depuis l'écriture, qui est un mode d'écriture très, très particulier, jusqu'à le tournage, le montage, etc., enfin, la diffusion même de cette série.
Donc oui, c'est aujourd'hui les séries c'est une des fictions les plus regardées et les plus consommées. J'ai voulu m'intéresser à comment est-ce qu'on les produisait, comment est-ce qu'on les fabriquait. Il y a des livres qui sont parus qui font l'exégèse ou l'interprétation des séries, ce qu'elles nous disent du monde social. Et moi, je me disais que pour vraiment comprendre ce qu'elles peuvent dire de la réalité sociale, il fallait comprendre comment elles étaient fabriquées. Et par opportunité de terrain et aussi par choix, mon objet, c'est le terrain s'est fait à Plus belle la vie. Alors qu'est-ce qu'un feuilleton quotidien, ça peut nous apprendre des autres séries? Ça pousse à son paroxysme des contraintes qui existent aussi sur toutes les séries, c'est-à-dire des contraintes d'audience, de moyens, une division du travail. Ce qui m'a intéressée, c'était de voir comment en fait, la fiction était le produit d'un travail et d'une organisation. Et donc, effectivement, pour mener mon enquête, pourquoi j'avais aussi choisi Plus belle la vie, c'est parce que c'est écrit en atelier. Ça a été une des premières séries écrites intégralement, collectivement, avec des sortes de writers' room comme aux États-Unis. Et donc, moi, j'ai pu assister aux réunions d'écriture du feuilleton et j'ai suivi ensuite, effectivement, le tournage. Donc, je me suis surtout concentrée sur la phase de l'écriture et de la préparation et du tournage. J'ai moins vu la post-production et le montage, etc. Mais ce qui m'a intéressée, c'est aussi de voir toute la chaîne de coopération à l'origine d'une série. On faisait la liste tout à l'heure pour l'édition, mais on pourrait faire la même chose, des scénaristes aux acteurs, en passant par les réalisateurs, les assistants, les gens au sein de la chaîne, de la maison de production, de voir en quoi ces objets sont le produit d'une collaboration collective et de plusieurs dizaines d'intervenants.
Ce qui est intéressant avec les séries, par contraste avec les films de cinéma en particulier, c'est que, alors même qu'ils sont également le produit d'un travail collectif, très collectif, c'est plus mis en avant s'agissant, c'est davantage mis en avant s'agissant des séries, parce que cinéma, l'un des enjeux de la légitimation du cinéma, ça a été de nous expliquer qu'il y avait un artiste auteur de l'œuvre, le réalisateur, alors surtout en France, mais alors que les séries, elles sont souvent présentées davantage comme quelque chose de collectif, avec une personne qui n'est pas le réalisateur, qui est ce qu'on appelle le showrunner. Alors, est-ce qu'il y a un showrunner aussi dans Plus belle la vie ou quelque chose d'équivalent?
Alors oui, à Plus belle la vie, il y a un directeur d'écriture. Après, strictement parlant, ce n'est pas exactement un showrunner, parce qu'aux États-Unis, les showrunners dirigent aussi la direction artistique, la réalisation, et sont souvent aussi producteurs. Donc, dans ce sens-là, il y a très peu de showrunners au sens strict en France. Mais justement, Plus belle la vie, ça permettait de montrer en quoi la série est collective, alors qu'il peut y avoir un mouvement dans la critique et la réception des séries à mettre en avant les showrunners sur le modèle du cinéma d'auteur où on penserait co-réalisateur. Là, des fois, on pense qu'au showrunner, et ça a tendance à invisibiliser que derrière le showrunner, il y a une quinzaine de scénaristes, plusieurs réalisateurs, des acteurs, toute une équipe. Et donc, c'était cette division du travail qui m'intéressait aussi. Et c'est vrai que les séries ont tendance à inverser les hiérarchies professionnelles qui existent au cinéma, puisque la partie importante de la série, en partie, c'est son scénario. C'est les scénaristes qui ont plus de pouvoir dans la chaîne de fabrication, qui décident de ce qui va se passer ensuite. Il y a moins de place qui est donnée aux réalisateurs. En général, on va connaître qui sont les scénaristes ou les showrunners de séries. On retient moins qui a réalisé telle ou telle série, ce qui n'est pas du tout le cas pour le cinéma en France, en tout cas, qui est très marqué par le cinéma d'auteur.
Donc vous disiez tout à l'heure, vous êtes plutôt arrêté au tournage, en quelque sorte. C'est surtout l'écriture et le tournage. Derrière, on sait que donc effectivement, il y a le montage, il y a la post-production, puis il y a la diffusion, et puis il y a la réception. Donc il y a aussi des sociologies de la réception. Mais d'une certaine façon, la réception est présente dans votre travail, puisque vous le disiez tout à l'heure, les gens qui fabriquent cette série, ils regardent les audiences et ils écrivent aussi en fonction du contexte, de l'actualité et des audiences. Donc, en fait, il y a une boucle qui est ce qui n'est pas le cas d'un film unitaire. Il y a une boucle entre la réception et la production d'un objet culturel comme celui-là.
Oui, je me suis en effet intéressée à comment est-ce que ces scénaristes et aussi la chaîne, Donc c'est la principale mission. Pense au public et aux téléspectateurs. Comment est-ce qu'ils adaptent leur discours pour plaire au plus grand nombre, pour rester palpitant, donc en systématisant avec Plus belle la vie l'usage des cliffhangers, en rajoutant des intrigues avec de très nombreux serial killers pour un si petit quartier, en pensant aussi à vouloir traiter l'actualité sociale en parlant à tout le monde. Donc dans Plus belle la vie, il y a une dimension pédagogique et de retraitement de l'actualité par la fiction, où là aussi ils cherchent à diffuser un message, à donner des informations sur certains sujets. Donc effectivement, le public est très présent dans l'esprit des scénaristes. Alors pas forcément comme on le penserait parfois, avec l'idée qu'on sait très bien qu'on va rajouter tel personnage parce que ça va plaire à tel segment précis de l'audience, parce que c'est pas aussi fin que ça, leur représentation du public. Mais en tout cas, contrairement à d'autres parties plus légitimes des mondes de l'art, là, dans Plus belle la vie et pour les séries télé, on ne peut pas faire comme si on n'avait pas un public et des contraintes commerciales. L'audience est importante et elle travaille aussi l'écriture du feuilleton.
Merci beaucoup, Muriel Mille. Donc, le travail de la fiction dans les coulisses d'une série télévisée, le livre paraît donc aux presses universitaires de Vincennes. Merci. Et j'en profite pour dire que sur ces questions de fabrication ou d'écriture d'une série télévisée, on a récemment publié dans AOC un entretien assez passionnant avec Eric Benzekri à propos de La Fièvre. Un entretien qui rentre vraiment dans le détail de la fabrique, assez long. Voilà, et j'en profite aussi pour dire, parce qu'il y a un lien entre ces auteurs, ces objets et ce qu'on fait à AOC quotidiennement, que et Mehdi Labzaé et Charlotte Recoquillon ont eu l'occasion d'écrire dans les colonnes d'AOC sur des sujets connexes à ces livres auparavant. Et voilà, on espère qu'ils continueront et que d'autres qui sont là ici aussi auront l'occasion de le faire. Ça nous semble important d'articuler des temporalités qui sont différentes, celles des livres et celles des articles qui s'efforce d'être peut-être plus réactif à certaines actualités en fait, mais repose et ne serait pas possible sans un travail en profondeur en fait, celui qui donne précisément naissance à des formats comme ceux des livres dont on parle aujourd'hui. Je vais demander à Belchior Simioni de me rejoindre pour parler d'un livre qu'il a coécrit avec Philippe Steiner. Alors, c'est un autre bon exemple, puisque la Société du Matching, qui paraît aux presses de Sciences Po, c'est un bon exemple, puisque tous les deux, avec Philippe Steiner, ils ont, dans AOC, fait un article sur les algorithmes et sur l'appariement, en fait, dont il va vous expliquer de quoi il s'agit, qui était un article en écho à un livre collectif qu'ils avaient co-dirigé déjà sur cette question de l'appariement, qui avait paru aux mêmes éditions, aux mêmes presses de Sciences Po, il y a quelques temps. Donc là, cette fois, c'est un développement, au fond, et j'ai vu avec plaisir que l'article d'AOC était figuré dans la bibliographie, d'ailleurs, un développement, un approfondissement de la réflexion qui est la vôtre sur cette idée du matching, qu'on peut dire appariement en français, mais c'est vrai que matcher, on comprend tout de suite de quoi il s'agit, de Parcoursup à Tinder, en gros.
Exactement, merci beaucoup pour votre invitation, celle d'AOC, de la FMSH. Alors effectivement, c'est un livre sur le matching, que je vais essayer un petit peu de présenter, parce que c'est à la fois quelque chose qu'on connaît via Parcoursup, via des applications de rencontres, et en même temps, il faut quand même réussir un petit peu à cerner le phénomène. Et vous avez tout à fait raison de rappeler, je pense, un point important pour commencer, c'est que c'est un livre plus incisif qui a été écrit dans la logique d'un essai, qui fait suite à un ouvrage collectif, cette fois beaucoup plus académique, paru aux presses de Sciences Po également, où nous avions réuni, Philippe Steiner et moi-même, un certain nombre d'auteurs qui travaillent sur cet objet singulier qui est celui du matching. Alors le matching, donc en effet, voilà, je pense que soit vous avez des connaissances qui y sont confrontées, soit de toute manière ça devient quand même un objet de débat absolument considérable, Parcoursup. Parcoursup est un bon exemple du matching, puisque le matching en vérité consiste à constituer des paires dans le cas de Parcoursup, entre des formations ou des places dans des formations d'un côté et des candidats. Et en fait, cette logique de constituer des paires où chacun se choisit des deux côtés de l'arène, c'est une logique sociale qui nous a paru assez à la fois importante dans le fonctionnement actuel des sociétés et en même temps qui n'avait jamais véritablement été analysée comme telle, cette logique sociale du choix mutuel. Et on s'est donc employé non seulement à dessiner les contours sociaux, à essayer de comprendre un peu le fonctionnement social de cette opération de création de pairs, et en même temps de réfléchir de manière plus générale sans doute à la question comment est-ce que cette logique sociale du matching répond ou s'inscrit ou s'articule avec un type de société. Un type de société est l'objet du petit ouvrage qui est apparu la semaine dernière, consiste précisément à essayer d'associer cette logique sociale à une forme de société, ou plus exactement d'essayer de répondre à la question comment est-ce que ces algorithmes de matching, ces dispositifs de matching, d'une certaine manière, constituent l'infrastructure d'une société contemporaine, une société que nous, on appelle, alors on n'est pas tout à fait stabilisé sur la manière dont on appelle, mais on reprend volontiers un terme qui a été avancé par un sociologue, Danilo Martuccelli, de société singulariste, l'idée étant que le matching constitue cette infrastructure ou cette technologie algorithmique rendant possible cette société singulariste. Pourquoi une société singulariste ? Précisément parce qu'elle rend possible l'affirmation des singularités, puisque cette logique du matching permet justement de faire valoir ces singularités. Contrairement à un marché standard, par exemple, lorsque vous allez sur Parcoursup, vous candidatez sur Parcoursup, alors bon, il y a tout un tas de défauts, bien sûr, hein, à cette plateforme, mais vous êtes choisi pour vous-même, c'est vos caractéristiques singulières qui seront choisies par la partie adverse, et à l'inverse, vous allez choisir une formation pour elle-même. Donc cette technologie permet des choix qui tiennent compte des singularités. Et c'est bien ça qu'on a essayé de développer dans l'ouvrage. Peut-être un petit mot, puisque c'est un peu notre perspective aussi théorique, hein, qui est importante de rappeler. Philippe Stenner et moi, nous sommes des sociologues de l'économie. Donc on essaye de comprendre le fonctionnement de l'économie, c'est-à-dire la manière dont les ressources circulent, du point de vue de la sociologie, en tenant compte d'un certain nombre d'enjeux sociaux. Et avec cet objet, celui du matching, on avait un bel exemple, justement, d'une manière de faire circuler des ressources, d'une manière d'allouer des formations, d'une manière de construire des rencontres amoureuses. Il y a tout un tas d'autres exemples, hein, notamment dans le cas, par exemple, de la transplantation d'organes, où vous avez aussi cette logique de matching. Ces ressources qui nous semblent essentielles, on a essayé de comprendre comment elles circulaient et comment est-ce que cette circulation résonne avec un type de société bien, bien particulier.
Et donc, vous le disiez tout à l'heure, il y a d'abord eu un livre plus académique, collectif. Il y a ce livre qui est davantage un essai, en quelque sorte. Est-ce que il y a un programme de recherche qui se poursuit derrière sur cet objet qu'est le matching, ou est-ce que vous pensez là avoir donné les outils pour penser ce tournant, au fond, ce type de relation sociale très particulier?
Alors, ce qu'on pense, c'est que cette technologie sociale, en fait, est appelée à se développer encore davantage dans le futur, notamment dans la construction d'outils ou d'instruments de politique publique, puisque c'est ce qu'on pressent, et on a des traces historiques de cela, on pressent que cette technologie sera appliquée de plus en plus, hein, pour allouer un certain nombre de ressources qui sont des ressources rares, des ressources... Dans les formations en droit, par exemple, il n'y en a pas beaucoup, donc cette technologie permet à la fois...
Alors on a vu que Parcoursup a donné mon master, par exemple.
Exactement, voilà, c'est un très bon exemple. Donc on cherche à reproduire un petit peu ces choses-là. Et dans cet essai, où on essaye aussi un petit peu de réfléchir au futur, ce qui veut dire que le programme n'est sans doute pas clos, en effet, on essaye aussi de montrer que cette technologie de matching permet de résoudre un problème social qui est le suivant. Comment répartit-on les ressources lorsque on est dans une situation de pénurie, comme ça va être le cas de plus en plus avec les enjeux de réchauffement climatique, tout en cherchant à respecter des préférences individuelles? Et ce qu'on montre, c'est que cette technologie du matching sera sans doute utilisée, puisque justement, elle fournit cette solution. On développe dans un chapitre une hypothèse, hein, qui est celui d'un matching pour les billets d'avion, qui permettrait non seulement de tenir compte d'une forme de rationnement sur les billets d'avion, par exemple, comme avait dit Jean-Marc Jancovici, 4 par personne au cours d'une vie. Sauf que pour combiner, pour concilier cette restriction ou cette pénurie avec la prise en compte des choix individuels, le matching constitue une solution en fait, qui est relativement efficace. Ce qui veut dire non pas que nous sommes des techno-positivistes BA, hein, c'est pas du tout ça, il y a toute une partie de critique aussi sur les enjeux, mais en tout cas, c'est sans doute un indice qui pourrait nous faire dire que le matching est appelé à se développer, notamment dans des marchés de pénurie.
C'est une technologie très proche quand même, qui est celle mise en œuvre depuis longtemps par les compagnies aériennes, puis par la SNCF aujourd'hui, qui à Paris, en quelque sorte, les besoins de transport et le prix, les places, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça,
le yield management, c'est ça. Tout à fait, si ce n'est que là, en fait, ce qu'on imagine, c'est que non seulement, parce qu'en fait, la coordination à laquelle vous faites référence, c'est une coordination standard par le prix. C'est-à-dire qu'on fait varier le prix pour moduler les préférences. Là, en fait, on pourrait imaginer quelque chose où il y a le prix, évidemment, mais il y a aussi moyen, disons, de pondérer la désirabilité sociale de tel ou tel voyage en avion. Il y a eu des débats récents sur est-ce qu'il faut fermer des lignes aériennes lorsque vous avez une substitution ferroviaire. Le matching pourrait, on pourrait construire des scores, en fait, permettant de tenir compte de cette désirabilité sociale. Et donc la coordination sur ce marché se ferait par les prix, mais aussi en tenant compte de cela.
Merci beaucoup. Donc je rappelle le titre du livre, La société du matching, Melchior Simioni et Philippe Stenner, aux presses de Sciences Po. Et si vous me permettez, je vais vous apparier avec un autre livre des presses de Sciences Po, celui d'Annabelle Alouche et Delphine Espagnol-Abadi, qui s'appelle Contesté Parcoursup et qui vient de paraître aussi, puisqu'il montre comment on peut être amené à contester ce type de technologie. Merci. Alors, on aura été vite, comme sur des roulettes, oserais-je dire, pour conclure avec vous, Charlie Machmel, vous êtes le directeur d'un ouvrage qui paraît dans le contexte pré-olympique aux éditions de l'INSEP, qui a paru déjà, et qui est consacré au skateboard de la rue au JO. Donc comment un sport, un sport de rue.
Comme vous voulez.
Est-ce que, je ne sais pas. Est-ce que d'ailleurs il y a un enjeu sur la qualification?
C'est exactement ça qui est au cœur du débat, que je reprends dans le titre de l'ouvrage de la rue aux Jeux Olympiques. C'est l'oxymore qui permet justement de mettre en avant cette confrontation entre un espace urbain, la rue, qui peut être quelque part les délaissés du mouvement sportif, avec un moindre niveau d'équipement, moindre accès aux politiques publiques, et puis de l'autre côté, le faste de l'olympisme avec ses cérémonies, l'éloge fait aux athlètes, le gigantisme des installations et de la dépense publique qui va avec. Voilà, donc c'est bien au cœur du débat, avec une particularité, c'est que les acteurs ne se reconnaissent pas tous dans l'olympisme. Donc il y a des points de vue différents qui se confrontent et qui rendent le sujet intéressant, qui intéresse la Fédération française de roller et de skateboard, qui a la responsabilité d'organiser le sport de haut niveau, et puis en même temps des pratiquants qui restent attachés à une éthique mythique, qui se rattache à une histoire qui est celle des skateurs de Venice Beach en Californie qui sautent les barrières des propriétés privées pour aller skater dans les piscines et qui donnent au skateboard une teinte subversive, masculine, blanche, petit bourgeois des fois aussi. Et donc il y a une espèce de rivalité entre des tenants d'une pratique sportive qui ont la préoccupation de faire des médailles dans le cadre de l'olympisme et d'accompagner les sportifs, les athlètes qu'ils désirent, et par ailleurs des pratiquants qui restent attachés à une éthique d'une pratique qui veut plutôt être une culture qu'on rattache aux cultures urbaines, aux pratiques alternatives.
Voilà. Vous disiez éthique, j'allais prononcer le mot culture parce qu'on a l'impression que c'est entre culture et sport. Il y a peu de sports qui sont entourés d'une culture aussi riche, avec des représentations dans tous les domaines des arts, en fait, très très fortes, et qui structurent beaucoup la communauté, ou les communautés, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup. Oui. Elles sont assez fragmentées.
Oui, c'est ça, c'est assez fragmenté. Et puis en même temps, vous avez raison de signaler que c'est une spécificité de la discipline. Parce que c'est la seule discipline, par exemple, et c'est un point de départ de l'ouvrage, pour lequel le CIO a admis une autonomie en termes d'organisation. Le CIO, en fait, s'il intègre des disciplines récentes comme le hip-hop, comme le skateboard, comme le surf, c'est pour rajeunir son image et faire face à un certain nombre de défis qui risquent de lui faire perdre son hégémonie en termes d'organisation du sport à l'échelle mondiale. Et dans le skateboard, il y a une particularité, c'est que le CIO n'a pas pu se passer en fait, des acteurs qui étaient en place, les acteurs commerciaux, les acteurs culturels qui promeuvent le spectacle. Et donc, il a composé avec, c'est-à-dire qu'il a habilité une fédération qui représente les acteurs commerciaux et industriels, quand même en trouvant un compromis et en maintenant son organisation internationale de roller d'ailleurs, pour organiser ces compétitions. Et donc on voit un petit peu comment se construit un rapport de force et incline à un moment le CIO à faire un pas de côté. C'est d'ailleurs comme ça qu'on peut interpréter le passage lors des Jeux Olympiques de Tokyo de Tony Hawk, qui est une figure du skateboard qui s'est fait connaître pour ses performances sportives, mais aussi parce que c'est un businessman et parce qu'il a... Il a beaucoup œuvré au développement de la pratique en défendant aussi le développement des entreprises qu'il gérait. Et donc, la participation de Tony Hawk est une manière aussi de rallier, de susciter de l'adhésion autour des Jeux Olympiques, une adhésion qui, a priori, n'était pas gagnée, mais s'est construite depuis le siège du Comité international olympique. Voilà, ça continue...
Et comment vous avez conçu ce livre ? Qui a pris part ?
Alors, en termes de conception, on a commencé par organiser un colloque avec un appel à communication. Par contre, on a une préoccupation d'emblée d'associer des acteurs fédéraux et de travailler avec la Fédération française de roller et de skateboard, avec l'idée d'essayer de réfléchir ensemble au problème et d'essayer d'y apporter aussi un peu des solutions collectives. Donc il y a des éclairages internationaux, mais on trouve aussi dans cet ouvrage des éclairages pluridisciplinaires, vraiment au sens large, avec des contributions de philosophes, de sociologues, d'historiens, d'anthropologues, mais aussi en termes d'analyse de mouvement ou de physiologie. Voilà. Donc c'est un petit peu original de ce point de vue-là, c'est vraiment l'objet skateboard qui a fédéré une équipe de chercheurs et il a même fallu aller chercher des chercheurs qui ne s'intéressaient pas à la pratique, mais l'idée était de les faire venir à nous pour répondre à des enjeux qui sont ceux de la fédération, entre autres.
Ça va se passer où le skateboard au JO de Paris alors ?
Ça va se passer sur la place de la Concorde et on y fera des enquêtes et on suivra attentivement ce qui va s'y passer. Voilà, avec beaucoup d'intérêt, évidemment. Voilà.
Donc, pas un endroit a priori qui est avant les JO de skateboard, quoi. J'ai jamais vu de skateboard.
Non, bien sûr, mais par contre, c'est un endroit qui va permettre de. Je vois un peu à quelle polémique vous voulez faire allusion.
Non, du tout. Non.
D'accord, parce qu'il y a un débat en fait sur les équipements qui auraient pu être construits dans le cadre
et demeurer pérenne.
Oui, c'est ça, exactement. Et puis donner une structure pérenne. Et en fait, c'est pas le choix qui a été fait. Le choix qui a été fait, c'est celui de la communication et de la mise en valeur des sites parisiens. Donc la place de la Concorde se prête à ce jeu-là.
Il aurait pu y avoir d'autres controverses si on avait choisi de mettre le skateboard en banlieue, par exemple, plutôt qu'au cœur de Paris.
Bon, on aurait pu avoir une réaction des sportifs qui auraient considéré qu'ils étaient relégués.
C'était un peu cliché.
Exactement. C'est des choses qu'on entend.
Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Skateboard de la rue aux Jeux Olympiques. Le livre paraît aux éditions de l'INSEP, l'Institut National.
Exactement, ça fait partie de la logique d'implication des acteurs et de co-construction de la démarche de recherche.
Merci. Ben voilà, on a été vite d'une part et puis on a écourté d'un titre que je vais quand même vous montrer. On ne vit pas de la bande dessinée, trajectoire professionnelle d'auteur à Angoulême. Donc ce livre de Sylvain Aquatias qui a eu un empêchement de dernière minute et qui n'a pas pu nous rejoindre malheureusement, je pense qu'il le regrette et nous aussi, qui paraît aux presses universitaires de Liège. C'était important aussi d'avoir une maison d'édition, par exemple en Belgique. Ça aurait pu être en Suisse, parce que je sais qu'il y en a un certain nombre qui sont également diffusés par la FMSH. Et puis l'objet de ce livre nous semblait intéressant, parce que la sociologie des auteurs de bande dessinée est assez particulière. On s'intéresse de plus en plus à la question des auteurs, je pense, dans les différents. Enfin, c'est une vieille question, mais disons qu'il y a des revendications d'auteurs depuis quelques années assez fortes, d'auteurs de livres en général. Mais la situation des auteurs de livres de bande dessinée est spécifique, dans la mesure où l'investissement de temps est assez considérable. Les modèles économiques ont été bouleversés. Il n'existe plus aujourd'hui de magazines de prépublication de bande dessinée qui autrefois supportaient l'essentiel de la production des bandes dessinées. Les éditeurs venant en fin de course, en quelque sorte. Ça ne marche plus comme ça aujourd'hui. Et pour autant, il y a un accroissement considérable de la production en bande dessinée. Ça représente une part de plus en plus grande de la production de livres en France, avec un marché qui marche bien, enfin qui marche bien, en nombre de titres en tout cas. Évidemment, le chiffre moyen de vente des titres baisse, ce qui rend de plus en plus difficile pour les auteurs de vivre de leur travail. Donc en général, les auteurs de bande dessinée font autre chose à côté, ce qui n'était pas le cas. C'était le cas des écrivains depuis très, très longtemps, et c'est toujours le cas. Mais pour eux, c'est un peu une nouveauté. Mais ils sont beaucoup plus nombreux qu'auparavant. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous propose de monter à l'étage, découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, le comptoir, qui est une sorte de librairie sur les tables de laquelle vous pouvez voir des livres qui n'accèdent pas toujours aux tables des libraires généralistes. Ça permet de voir l'étendue de la production de tout ce secteur de l'édition publique auquel nous avons consacré cette deuxième rencontre ce soir.